Chapitre 35. Se défendre. Roger eût été vraiment bien embarrassé de dire à M. de Condrieu comment il entendait se défendre. Il rentra chez lui fort abattu, non découragé, mais perplexe, se demandant ce qu'il devait faire et ne trouvant pas de réponse aux questions qu'il se posait. La porte fermée, Bernard lui remit plusieurs feuilles de papier timbré qu'un huissier venait d'apporter. Roger passa vivement dans sa chambre pour examiner ses papiers. Mais, soit émotion, soit mauvaise écriture, il ne put pas tout d'abord les lire. Enfin, s'étant un peu calmé et ayant renoncé à l'idée de vouloir lire tout d'un coup d'œil, depuis le premier mot jusqu'au dernier, il put, tantôt devinant, tantôt épelant, déchiffrer à peu près ses paperasses, au moins dans les passages qui étaient de fait et non de style. À messieurs les présidents et juges composant la chambre du conseil de la première chambre du tribunal civil de première instance de la Seine. Monsieur le comte Pierre-Narcisse Étienne de Condrieu-Revel, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur, président honoraire de l'Académie philotechnique, membre des académies d'Aix, de Bordeaux, de Toulouse, de Nantes, etc., demeurant à Paris rue de Lille, ayant maître Lucotte pour avoué, à l'honneur de vous exposer. Ainsi, c'était bien son grand-père qui, malgré ses protestations, introduisait lui-même cette demande de conseil judiciaire. Il y a 3 mois, M. le duc de Naurouze a atteint sa majorité et il a été mis en possession de la fortune qu'il avait recueillie dans la succession de ses pères et mères et, par les soins de son tuteur, il lui a été versé une somme de 977 547 francs provenant de la balance de son compte de tutelle. Ce jour même, cette somme était dépensée, et le soir, M. le duc de Naurouze perdait 800 000 francs au jeu. C'était ainsi qu'il fêtait sa majorité par une dépense insensée de 1800 000 francs. Ce fut alors que sa famille conçut la pensée de le pourvoir d'un conseil judiciaire. Mais M. le comte de Condrieu-Revel parvint à faire abandonner cette mesure en représentant à ceux des parents du jeune duc de Naurouze qui s'étaient justement émus qu'il ne convenait pas de se laisser effrayer par ce premier acte de prodigalité, si considérable que fût cette prodigalité, qu'elle pouvait être le résultat d'un moment d'entraînement, d'égarement passionné, et qu'avant de s'adresser à la justice, il était sage d'attendre pour voir si elle ne serait pas une leçon. Ni un avertissement, ni une leçon. Car 3 semaines après, M. le duc de Naurouze consentait sur ses propriétés, au profit de divers, une hypothèque de 1150 000 francs. Depuis, ses prodigalités et ses dettes ont subi la même progression déplorable et on l'a vu donner un libre cours à ses goûts de dépenses. En même temps, il contracte une liaison aussi dangereuse pour sa fortune que pour sa santé et dès lors, il semble qu'il soit atteint d'une véritable manie de prodigalité. Mieux que de longues explications, l'énumération de quelques-unes des dettes qu'il a contractées depuis sa majorité fera comprendre dans quelle voie déplorable il est entraîné et où il doit être arrêté sous peine de voir sa fortune complètement dévorée avant peu de mois. À Bayou, bijoutier rue de la Paix, il doit pour coffrets, bagues, bracelets, bijoux de différentes sortes, 67 000 francs. À Bauer, carrossier, 24 000 francs. À Isaac, marchand de chevaux, 14 000 francs. Au couturier Faugerolles, pour robes, costumes, manteaux, 18 000 francs. À Lobel, tapissier, 248 000 francs. À Thomson, sellier, 3 000 francs. À Marette, chapelier pour dames, 1 200 francs. À Jourdain, tailleur, 3 000 francs. À Schiller, bottier, 800 francs. Si l'on additionne ces différentes sommes, on trouve près de 380 000 francs qui, ajoutés aux 150 000 francs de la maison de campagne, aux 1 150 000 francs d'hypothèque et aux 977 547 francs reliquats du compte de tutelle, forment un total général de près de 2 700 000 francs, 2 676 547 francs, dépensés en moins de 3 mois, et cela sans parler d'autres dettes contractées de ci de là quelques-unes considérables dont il a été impossible de se procurer le chiffre exact. Dans ces conditions, c'est un devoir douloureux pour l'exposant de s'adresser au tribunal pour lui demander d'ordonner des mesures qui fassent cesser un pareil état de choses et qui protègent le duc de Naurouze contre les entraînements qui le conduiraient rapidement à une ruine complète. Après cette lecture, il resta un moment immobile, réfléchissant. Bien évidemment, sur un pareil exposé, tout tribunal le condamnerait. 2 700 000 francs. Il n'avait jamais voulu fixer son esprit sur ce chiffre. Jamais il n'avait voulu faire cette addition, la plus formidable accusation qu'on pût porter contre lui. Et encore, comme le faisait habilement remarquer la requête, ce n'était pas tout. Que dire pour sa défense? Qu'une partie de cette somme avait servi à éteindre d'anciennes dettes? Mais le reste, c'est-à-dire plus de 1 600 000 francs. Cependant, il n'était pas arrivé au bout de la lecture de ces paperasses. Il continua. Ordonnance du président du tribunal prescrivant que cette requête serait communiquée au procureur impérial et nommant un juge pour faire un rapport. Conclusion du procureur impérial déclarant qu'avant de faire droit, le conseil de famille devait donner son avis. Délibération du conseil de famille décidant qu'il y avait lieu à nommer un conseil judiciaire. Enfin, citation à comparaître devant le tribunal pour y subir un interrogatoire. Et tout cela, il le lut d'un bout à l'autre, ne distinguant pas ce qui n'était que simple phraséologie de palais de ce qui était vraiment sérieux et donnant à tout la même importance, même aux distinctions honorifiques qui accompagnaient longuement les noms des juges. Dans une aussi mauvaise position que la sienne contre une accusation aussi habilement disposée, quels moyens employer pour se défendre? Le nom de Harly lui vint aux lèvres. Aussitôt, ramassant ses paperasses, il se rendit rue Lepelletier. « Que voulez-vous ? » demanda Harly après avoir lu la requête. « Me défendre. » Harly resta un moment sans répondre, réfléchissant. « Je suis médecin et non avocat ou avoué. Mais au moins, je puis vous conduire chez un de mes amis, capable de vous guider et en qui j'ai toute confiance. Qui ? Un avoué, un ancien camarade de travail et de misère, Nougaret. Quand pouvons-nous le voir ? Tout de suite, je vais vous conduire chez lui. » En chemin, tandis que la voiture roulait rapidement vers la rue Sainte-Anne, Harly expliqua quel homme était son ami Nougaret. Un fils de paysan, venu à Paris à 12 ans, sachant à peine lire, et qui, tout en gagnant son pain de chaque jour, s'était instruit en suivant les cours gratuits qui se font le soir. À 24 ans, il avait passé son examen du baccalauréat. À 30 ans, il avait été reçu avocat. À 35 ans, on lui avait vendu, bien qu'il n'eût pas un sou pour la payer, une des bonnes études d'avoué de Paris. L'avoué était dans son cabinet. Il reçut, aussitôt qu'on les lui eut annoncés, Harly et le duc de Naurouze. En quelques mots, Harly exposa l'affaire, pendant que Roger examinait l'avoué avec l'angoisse du malade qui étudie le grand médecin de qui il attend un miracle. Cet examen lui inspira confiance. À regarder la tête intelligente de l'avoué, son œil perçant, son attitude calme et résolue, il se sentit rassuré de penser qu'il allait l'avoir pour défenseur. Vous avez la requête ? Demanda l'avoué, coupant court aux explications de Harly. Harly avait mis presque autant de temps que Roger à lire ses papiers. En 2 ou 3 minutes, l'avoué les eut parcourus, ne s'attachant qu'à l'essentiel. Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? Demanda-t-il.
Beaucoup de choses.
Les dettes, le détail en est exact ?
À peu près.
Cela est grave. Aussi, à votre place, je n'hésiterai pas à tout faire pour éviter que l'affaire aille devant le tribunal.
Je suis prêt à tout.
Même à abandonner une grosse part de vos revenus pour éteindre vos dettes, même à... J'ai proposé cet abandon à mon grand-père et aux membres de mon conseil de famille. Il n'a pas été accepté.
Ah !
C'est qu'on veut davantage.
Quoi donc ?
Ma fortune entière. Roger expliqua la situation telle qu'il la voyait en insistant sur les espérances de M. de Condrieu. Il fit ce récit longuement, clairement, d'une façon saisissante. Et il remarqua qu'à mesure qu'il parlait, l'avoué devenait plus attentif et l'écoutait avec plus d'intérêt, plus de sympathie. C'est que, tout d'abord, Nougaret, qui connaissait le duc de Naurouze de réputation, avait cru n'avoir affaire qu'à une demande toute simple de conseil judiciaire, provoquée justement par les prodigalités et les folies d'un jeune homme à la mode. Mais en écoutant ce récit, il comprit qu'il y avait un drame de famille sous cette demande, que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il se l'était imaginé, que ce jeune homme valait mieux que sa réputation tapageuse et qu'il y avait des raisons pour expliquer, peut-être même pour excuser, les entraînements auxquels il avait cédé. « Vous voyez, dit Roger en terminant, que j'ai besoin d'un défenseur aussi habile que dévoué, car j'ai dans mon grand-père un adversaire terrible qui vous effraierait, j'en suis sûr, si vous le connaissiez. »«
Je le connais. »«
De réputation. » »«
Mieux que cela, car je suis en ce moment son adversaire dans un procès qui me l'a fait connaître et qui m'a montré quelles étaient sa force, son audace, son habileté, sa persévérance. » Je veux parler de l'affaire en usurpation de nom que poursuit contre lui M. le duc de Condrieu, mon client.
Comment, une usurpation de nom ? Demanda Roger.
M. le duc de Condrieu, représentant de la grande famille des Condrieu, prétend que M. le comte de Condrieu-Revel n'a pas le droit de porter ce nom de Condrieu qui ne lui a jamais appartenu, attendu que son grand-père s'appelait tout simplement Coudrier et que c'est le général père de M. le comte de Condrieu-Revel, qui a changé ce nom de Coudrier en Condrieu, afin de se rattacher à l'illustre famille des Condrieu.
C'est impossible ! S'écria Roger, rouge de honte.
C'est la prétention de mon client que je vous expose, et si je vous en parle, c'est pour que vous compreniez que je connais M. le comte de Condrieu-Revel, car si les prétentions de mon client sont fondées, il faut... Pour que M. le comte de Condrieu-Revel ait pu maintenir cette usurpation de nom jusqu'à ce jour et faire accepter cette fraude par tous, par les divers gouvernements qu'il a servis, par le monde, par les écrivains qui ont publié des livres sur la noblesse française, il faut vraiment que ce soit l'homme terrible dont vous parliez. Roger resta un moment anéanti, car malgré les sentiments de répulsion qu'il éprouvait pour son grand-père, il ne pouvait pas oublier qu'il était le petit-fils de celui qu'on accusait de cette fraude et que, dans ses veines, il y avait du sang de ce Condrieu, ou plutôt de ce Coudrier. Ce que l'avoué venait de raconter était-il donc possible ? Devant cette question, sa fierté se révoltait, outragée et indignée. Il put rester sous l'oppression de cette pensée d'autant plus longtemps que l'avoué ne parlait plus. Il s'était posé les deux coudes sur son bureau, et la tête enfoncée dans ses mains, il restait là, réfléchissant comme s'il eût été seul. De temps en temps, on entendait ses cheveux rudes et durs crier entre ses doigts qui s'ouvraient et se refermaient machinalement. Tout à coup, il abaissa ses mains et, relevant la tête, il se tourna vers Arly. « A-t-on pu croire, demanda-t-il, que M. le duc de Naurouze portait en lui le germe héréditaire de la maladie dont est mort son père ou de celle qui a tué sa mère ?» On a pu le croire, autrefois, l'enfance de M. le duc de Naurouze ayant été difficile, répondit Arly. Mais maintenant, ses inquiétudes sont dissipées. M. le duc ne porte pas en lui le germe de l'une ou de l'autre de ses maladies.
Enfin, on a pu le croire, dit l'avoué. Cela suffit. Avez-vous un avocat ?
Non.
Eh bien, je vous engage à prendre Gontaut. Il vous faut un défenseur qui, par son caractère et sa réputation, soutienne l'affaire. Gontaut est l'homme qu'il nous faut. Maintenant, je ne dois pas vous dissimuler que nous avons peu de chances de succès. Mais en même temps, je tiens à vous dire que si, comme je le crains, nous succombons, nous pourrons nous relever. Cela dépendra de vous. Si le conseil judiciaire vous est imposé, nous pourrons, au bout d'un an ou deux, le faire lever. Pour cela, vous n'aurez, pendant ces 2 ans, qu'à vivre simplement en mettant à exécution l'arrangement que vous aviez proposé à M. de Condrieu-Revel. En serez-vous capable ?
Je serai capable de tout pour recouvrer ma liberté.